Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fabien Favre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain aventurier, écrivain marcheur. On va parler de votre livre, nouveau livre aux éditions Slatkin, une parenthèse balkanique à pied sans mon smartphone. Donc une éloge à la déconnexion. On va parler de cela avec vous. Vous êtes enseignant, vous venez de la Riviera, vous m'avez donné rendez-vous aux Pléiades. Voilà, emblématique.
Oui, emblématique surtout pour moi parce que en fait, on avait un chalet familial à Lali, juste là où on se trouve. Et puis c'est vrai que j'ai passé l'essentiel de mes vacances et de mes week-ends là-haut, à skier, à jouer aux cow-boys et aux indiens, à faire des cabanes, à aller en nature, etc. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est important pour moi, à mes yeux, et puis c'est quelque chose qui a aussi forgé une partie de ce que je suis.
Je veux faire le moment cocorico, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, monsieur, pour avoir des beaux endroits, n'est-ce pas?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose que je défends, et d'ailleurs c'est peut-être un prochain projet que j'aurai à travers la Suisse en plus.
Moi j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger, et parce que je dis ça en provoquant, mais c'est en partant qu'on se rend compte, en revenant, que c'est pas mal aussi chez soi.
Ouais, clairement, c'est vrai que moi à chaque fois que je reviens... Voilà, je me rends compte à quel point on a de la chance d'être en Suisse, que ce soit sur le plan politique, économique, etc., mais aussi juste sur le plan des paysages. On est dans un environnement qui est juste incroyable. Des fois, on a tendance à partir à l'autre bout du monde sans forcément aller voir juste un peu au-dessus de chez nous, même aller, je sais pas, sur des petits sommets comme la Dent de Jamon et d'aller voir le lac. Je suis pas sûr que toutes les personnes qui vivent sur la Riviera ont fait ça un jour dans leur vie, et pourtant, ça en vaut vraiment le détour.
Bon, vous êtes ce qu'on appelle un randonneur, y compris quand vous n'êtes pas dans vos projets, vous êtes tout le temps un petit peu les pieds dans l'herbe et le nez dans le ciel.
Alors, je pense que je suis en partie un voyageur randonneur, quelqu'un qui aime être dehors, mais je suis aussi quelqu'un qui aime être dans sa bibliothèque et lire des bouquins ou à lire le journal. Donc j'ai un peu ces deux facettes. Et puis c'est vrai que l'alliage, on va dire, de la marche ou de l'activité physique, du voyage et puis du côté un tout petit peu plus cérébral me va bien. Voilà.
La déambulation, elle permet de réfléchir.
Je pense, je suis pas sûr que ce soit vraiment une révolution de le dire, dans le sens où même à l'époque des sages grecs,
les péripatéticiens,
voilà, exactement, ou bien je sais pas, d'Hippocrate ou autre, on essayait de promouvoir déjà la marche ou bien l'activité physique aussi dans un esprit de réflexion, et puis dans l'idée de se soigner aussi par le mouvement, et puis de laisser vagabonder l'esprit de manière à peut-être trouver, je sais pas, certaines idées, certaines solutions.
Cette région de la Riviera, vous m'avez emmené aux Pléiades, on est dans le coin des Narcisses, hein, et on se baladait là pour venir jusqu'à un banc où on peut enregistrer tranquillement. Vous m'avez dit, tiens, j'ai fauché cette prairie communautaire, en somme, hein, pour préserver les Narcisses, c'est ça?
Exactement, avec Narcisse Rivera, fauche communautaire et tardive, de manière en fait à conserver les bulbes et puis à...
Voilà, c'est tardive, le mot clé, hein, parce que quand je dis fauche pour préserver, c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais c'est une fauche tardive justement pour les Narcisses.
Exactement, pour pas en fait endommager les bulbes et faire en sorte que ces parcelles elles puissent survivre, sachant qu'on a perdu une grande partie de ces Narcisses, et puis que voilà, c'est aussi un bien culturel et patrimonial de la région.
Bon, ça veut dire aussi que le climat change, que ces plantes, alors de par l'exploitation des prairies, mais aussi par le réchauffement climatique, sont en danger. Dans vos balades, j'en citerai quelques-unes, hein, celles qui font en tout cas l'objet de réflexions de votre part, il y a ce souci, vous le regardez, la nature qui change, les effets.
Bien sûr, c'est vrai que voilà, toutes ces réflexions autour du réchauffement climatique, l'effondrement du vivant, etc., c'est des choses qui m'habitent depuis pas mal de temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé, à mon échelle, de voyager avec le moins d'empreintes possible, que ce soit en allant en Amérique du Sud sans prendre l'avion, que ce soit en voyageant en Europe à vélo, à pied, etc. Et puis bien sûr, lors de ces pérégrinations, je peux aussi un petit peu m'attrister de voir à quel point le vivant ou bien certains environnements qui nous entourent sont endommagés ou bien sont en voie de perdition. Par exemple, juste cet été, en allant marcher aux abords de certains glaciers en Suisse, j'ai pu voir à quel point la fonte elle s'accélère. Mmh. Et aussi en comparant certaines photos que j'ai pu faire il y a très longtemps, alors c'était pas moi, mais quand j'étais petit garçon scout dans les années 90, et puis de voir ces mêmes glaciers 20, 30 ans plus tard, on peut vraiment voir la différence d'épaisseur.
Ils sont clairement plus là à l'endroit où on a pris la photo, quoi.
Voilà, et c'est vrai que c'est assez marquant.
Bon, moi j'ai une scène très concrète dans votre livre que j'ai vécue plein de fois en marchant dans le sud de l'Europe avec mon petit chien, c'est la forêt calcinée, les mégafeux, ça vous l'avez croisé en Yougoslavie.
Exactement, ça j'ai pu voir notamment en Croatie il y a 3 ans, de voir certaines parties en fait de la forêt complètement calcinées, noires, brûlées. Et donc c'est vrai que ça, je me fais une petite...
Ça devient très concret tout à coup.
Ça devient très concret, puis c'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit malheureusement un peu s'habituer. Il y a aussi quelques années, j'étais passé à vélo le long de la côte atlantique en France, et puis j'étais passé vers la dune du Pilat. Et c'est vrai que c'était 1 ou 2 ans avant qu'il y ait ces méga feux dans les Landes. Et puis j'ai eu la chance de voir ces paysages encore plus ou moins intacts. Et j'y suis pas retourné depuis, mais c'est vrai que même vraiment à l'orée de chez nous, et dans des coins qui sont très parcourus, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ces méga feux. Ouais.
Voilà, tristesse de balade. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais on va y venir. Vous êtes le voyageur 100. Vous allez en Amérique du Sud sans prendre l'avion. Vous traversez l'Europe du sud au nord à vélo sans plastique. Et là, vous marchez dans les Balkans sans smartphone. Vous êtes l'homme du 100.
Du sang, alors ça dépend. Ouais, du sang S-A-N-S.
Je pourrais préciser la question. Vous avez besoin de vous mettre une contrainte quand vous allez vous promener, quoi.
Oui, c'est vrai. J'aime bien mettre une contrainte ou une sorte de fil rouge comme ça. Pour moi, ce n'est pas des contraintes. C'est juste, choisir, c'est... choisir un peu sa liberté et puis le cadran dans lequel on se met. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide, je ne sais pas, à ensuite partir dans mes réflexions et puis...
La liberté dans la contrainte, il y a de la philo là. Hein. C'est comme
il y a un peu de la philo.
Écrire des sonnets en alexandrin, c'est une contrainte. Et si on n'a pas de contrainte, finalement, on n'apprécie pas la liberté, c'est ça ?
Exactement. Moi, je pense que quoi qu'on fasse, il y a des contraintes. La pure liberté, pour moi, c'est une chimère. Et puis, c'est vrai que de me mettre ces toutes petites barrières comme ça, ça me permet en fait d'avoir une sorte de plan de route. Et puis ensuite de réfléchir à ces questions. Et après le dernier voyage que j'ai fait, c'était l'an passé en 2024, il n'y avait pas vraiment de contraintes à part de passer par tous les pays de l'ex-Yougoslavie à vélo, de manière aussi à aller sur les routes de l'ex-Yougoslavie. Tout ça pour dire que oui, je suis un voyage sans, mais peut-être je suis aussi un voyage avec, entre guillemets.
Bon, on va venir à ce livre qui nous occupe. Je traduis donc, c'est 2023 votre voyage là
2022, oui.
À 2022, celui-là à pied, donc dans les Balkans, sans smartphone, on va y venir assez largement. Mais d'abord, est-ce que vous partez avec l'idée d'en faire quelque chose ? Parce que certains de vos périples ont donné des documentaires, il y a eu un livre précédent. Ça fait partie du projet ?
Alors,
c'est quand on revient qu'on se dit, c'était pas mal quand même. Je vais raconter.
Maintenant, de plus en plus. C'est vrai qu'au tout début, là, quand j'ai commencé à voyager sans, et notamment en Amérique du Sud sans prendre l'avion, c'était en 2016-17, là, j'avais pas du tout l'intention de faire des livres, co-réaliser des documentaires ou autre. Je pense que c'est un voyage qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. À l'époque, j'avais un blog, j'écrivais de temps en temps des petits articles. De temps en temps, j'avais aussi des bons retours de la part d'amis ou de connaissances qui me lisaient. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je me suis dit, je peux essayer d'écrire, essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai que l'intention première, c'était plus le voyage, la découverte, la curiosité, etc. Puis après, de fil en aiguille, à force de faire des rencontres, on m'a aussi donné l'occasion de faire ce film documentaire qui est sorti en 2021. Et puis ensuite, je me suis dit, on va essayer d'écrire. Et c'est vrai que maintenant, quand je pars, ou en tout cas quand je pars seul sur ces projets, souvent j'ai quand même l'intention de faire quelque chose derrière. Après, on ne sait pas comment le voyage va tourner. Là, en l'occurrence, à un moment, j'ai hésité à revenir et à rentrer en Suisse parce que j'étais pas super bien un moment en Bosnie. Et là, j'aurais certainement rien écrit. Et puis au final, je me suis dit que ça devait... pouvait aussi donner l'occasion d'un livre sympa, intéressant, et donc voilà.
On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. On va commencer par bien poser le projet, hein. J'ai dit sans smartphone. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Sans smartphone, pour moi, c'est pas quelque chose qui est complètement facile, dans le sens où je suis quand même quelqu'un de ma génération, né à la fin des années 80. Donc ça fait quand même 10-15 ans que j'ai un smartphone, une dizaine d'années, je sais pas exactement. Et donc, de m'en passer pendant 6-7 semaines, c'est pas si anodin, si simple. Je pense que je suis assez sobre dans ma consommation et j'essaye...
Moi, je suis de la génération d'avant, m'en passer, c'est pas simple non plus, voilà. Je vous rassure.
Non, clairement. Clairement, c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous pris dans cette dynamique un peu d'addiction, comme ça. Et puis, on essaye de se raisonner au mieux. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien. C'est vrai que... Je pense que c'était aussi l'occasion de renouer peut-être avec des sensations qu'on a perdues, avec l'imprévu, avec peut-être aussi un sens du voyage qui se perd un petit peu. C'était aussi un défi, c'était une forme d'expérimentation et puis aussi peut-être un besoin, parce qu'à un moment j'en avais marre de scroller bêtement sur les réseaux et puis j'avais aussi envie de renouer un peu plus avec le réel et puis aussi avec... j'ai envie de dire mon humanité entre guillemets, ou bien...
On reviendra sur l'aspect philosophique de ce choix dans la deuxième partie, mais très concrètement, pas de smartphone, ça veut dire pas de GPS aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas par ailleurs un GPS portable, etc. Mais c'est ça, vous allez marcher dans la montagne sans pouvoir contrôler votre chemin tout le temps. Vous avez une boussole, déjà il faut se souvenir, il faut les pêcher dans les
azimuts,
dans les gènes de nos ancêtres pour savoir comment ça marche, et puis des cartes pas terribles, quoi, visiblement. À vous lire.
Voilà, c'était le gros problème. Donc, pas de GPS et puis surtout des plans qui ressemblent plus à des cartes autoroutières qu'à des réelles cartes topographiques au 25 millième, etc. Donc, pas vraiment la possibilité de faire des azimuts, etc. J'avais quand même une petite boussole, mais c'était plus pour m'orienter vraiment un peu en cas de gros pépins ou bien me donner des indications. Donc, ça faisait partie aussi du projet. C'était finalement d'accepter de se perdre et puis d'accepter l'imprévu, les changements de plan, demander aussi mon chemin aux gens. Et voilà, c'est vrai que c'était pas évident. Je pensais que ce serait plus simple que ça. Je pensais que le sentier serait aussi plus mieux tracé et tout ça. Mais
quand on revient, on est content de voir les petits panneaux jaunes en Suisse qui permettent de traverser le pays sans trop se poser de questions.
Ouais, on est content, puis on se rend compte à quel point en Suisse on a...
Moi, je suis fasciné par le développement des itinéraires pédestres en Suisse. C'est entré dans la Constitution, on l'a pris sérieusement. Et on peut être au centre de Zurich et savoir comment marcher jusqu'à Saint-Gall, c'est fou.
C'est fou, non, c'est fou. Et ça aussi, encore une fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Alors... Certains diront « Ah, mais tout a été, on va dire, tracé, anthropisé. » Et puis, c'est un peu dommage que tout soit comme ça balisé. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable, quand on est en montagne ou en moyenne montagne, de pouvoir trouver son chemin. Et puis, finalement, de se mettre en mode avion et de ne pas, craindre de se perdre. Donc, oui, clairement.
Bon, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. On va entrer vraiment dans la philo de ce qui vous a guidé pour cette expérience sans smartphone, sans GPS, sur les sentiers balkaniques. Fabien Favre, à tous.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fabien Favre, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On a parlé de votre postulat de départ, partir, marcher sans GPS, sans smartphone. Alors, difficulté, évidemment. Hein. Au début, ça a l'air sympa. Ça l'est, par plein d'égards. On sent des moments de joie dans votre récit. On va tout de suite évacuer ce qui ne va pas. On se paume. On se met en danger, parfois.
Voilà, on se paume, on se met en danger, et puis on se pose beaucoup de questions aussi, quand on est comme ça, seul sur sa souche d'arbre au milieu de la forêt, perdu, et après quelques jours...
On regarde les mousses pour savoir où on doit aller.
Voilà, puis on se dit, est-ce que c'était la bonne décision, est-ce que je suis pas un peu con de faire ça. Après, au bout d'un moment...
Il faut se rendre compte, hein, quand on est à 20-30 bornes par jour, qu'on est un peu crevé, vous faites ça en été, il fait chaud, qu'on se rend compte que ça fait 2 heures qu'on est sur le mauvais chemin et qu'il faut revenir,
c'est pas facile.
C'est terrible.
C'est pas facile, c'est très frustrant. Et puis, faut aussi bien imaginer que les Balkans, ou en tout cas les Alpes Dinariques, c'est une région qui est relativement sauvage. Globalement, les montagnes sont moins anthropisées qu'en Suisse, donc il y a moins de construction, etc. Ça m'est arrivé de marcher pendant 2-3 jours sans rencontrer le moindre quidam. en temps un berger, etc., ou des animaux sauvages. Donc, c'est pas non plus l'Amazonie, ou bien je suis pas non plus en plein Sahara occidental, mais voilà, ça reste quand même assez sauvage. En plus de ça, il y a la question de l'eau aussi, parce que c'est une région karstique, donc il faut trouver absolument des puits ou des endroits où il y a des sources d'eau. Donc, c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu engageant.
On tombe sur un gars qui vous donne les points, qui vous met des croix sur la carte.
Voilà, exactement.
Là, ça marche pas toujours, mais...
Mais c'est vrai que j'ai rencontré un monsieur très intéressant qui, en plus, qui était géologue, si je me trompe pas, puis qui connaissait très très bien la région. Donc lui, il m'a vraiment aidé aussi à mettre un peu tous ces points d'eau là sur la carte. Après, j'ai aussi voyagé avec des gens qui, eux, avaient un GPS et puis qui avaient toutes ces informations. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Puis ça, j'ai pu voir aussi à quel point, quand j'étais seul, c'était beaucoup plus difficile sur ce plan-là, au niveau de la perte de repères, mais aussi juste sur le plan moral et tout ça.
Il y a pas de compétition dans votre livre. Hein. La contrainte, elle est pour soi-même. Donc, vous, en effet, vous voyagez parfois avec des gens qui ont la technologie. Vous faites du pouce, des fois, du stop. Hein, parce qu'il y a 30 bornes où je dois être sur la route. Autant les faire rapidement pour retrouver les sentiers. Tout ça passe très, très bien à la lecture. Je parlais de moments de danger. Il y a une scène d'orage où on a une vraie trouille, j'ai l'impression. Vous avez...
C'est vrai que là, je faisais pas le malin. J'étais donc en Bosnie. Et puis, à un moment, je vois vraiment un front orageux arriver, des gens qui me disent ouais, c'est mieux de redescendre. Puis voilà, moi je savais qu'il y avait aussi un refuge à quelques kilomètres. Et je me suis dit je vais faire en sorte de passer un peu à côté ou de m'abriter au moment de l'orage. Et je me suis pris des gros grêlons. J'ai eu quand même un peu peur. Et puis en plus de ça, ce jour-là, je me sentais pas très bien. Donc ensuite, en arrivant dans le refuge,
malgré des avertissements, n'y allez pas, c'est dangereux. Il faut y aller quoi.
Ouais, alors moi je suis pas forcément une tête brûlée. J'essaye de quand même rester un peu rationnel. Et puis de ne pas me mettre en danger de manière complètement inconsciente. Là, en l'occurrence, il y avait quand même des arbres, il y avait des gros rochers. Je me disais, au pire, je pourrais quand même m'abriter.
C'est plus vrai, les arbres et les éclairs?
Ouais, non, les arbres, c'est pas une bonne idée, mais les rochers ou les petites cavernes, c'est mieux. Puis voilà, là, en l'occurrence, je me suis mis en boule, les pieds serrés, etc., pour éviter le gros choc électrique. Mais ça va, c'est un moment à passer, c'est arrivé à beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on n'a pas trop de moyens de communication, on est dans un pays qu'on connaît pas bien, donc voilà.
Bon, pour être honnête dans cet entretien, comme vous l'êtes dans le bouquin, vous aviez un téléphone hein, pour les urgences.
Oui.
Pas un téléphone, donc un vieux smartphone sans GPS, pour les urgences, pour le petit message qui rassure votre compagne, etc. Donc ça, ça c'est dit clairement dans le livre. Vous l'utilisez assez peu, mais il est là pour la sécurité. Les rencontres. Alors évidemment, la lenteur permet la rencontre, la contemplation du paysage, des animaux, mais aussi des humains.
Exactement. Donc on fait autant des rencontres de voyageurs, de bergers, de personnes qui nous offrent tout un coup de la rakia, donc il y a une autre vie bien connue dans les Balkans. Aussi une rencontre assez incroyable, c'était à Kalinovik en Bosnie, où j'arrive en fait dans cette ville sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et puis là, en l'occurrence, c'était la ville de Ratko Mladic, qui était le boucher des Balkans, qui est le général qui a participé notamment au génocide de Srebrenica, etc. À ce moment-là, en arrivant dans cette ville, je ne pensais pas, mais il y avait une sorte de meeting politique. Et en fait, après coup, j'ai compris que c'était le président de la République serbe de Bosnie qui était là, Milorad Dodik. Donc c'est vrai que on ne s'est pas rencontré directement, mais c'est de voir ça en fait aussi.
Ça amène au point suivant, c'est que vous traversez un pays qui a été écorché sévèrement par l'histoire il y a peu, hein, c'était il y a une trentaine d'années, la guerre en Bosnie et dans les Balkans en général. Alors c'est assez pointilliste dans votre récit, mais voilà, on croise des champs de mines, on croise des vieux abris criblés de balles, etc.
Exactement. Alors c'est assez pointilliste. Je vais un peu plus développer la question, je pense, dans mon troisième bouquin, suite à cet autre voyage que j'ai fait dans ces pays-là. Mais j'évoque, par bribes, quelques aspects justement de la guerre, parce que c'est vrai que je passe par des champs de mines. Je rencontre aussi des gens qui me parlent de ce qu'ils ont vécu, notamment un monsieur en Bosnie qui me parle du fait qu'il a perdu son papa durant la guerre, mais que pour lui c'est une parenthèse entre guillemets qui est terminée, et qu'il veut aller de l'avant, et qu'il n'a aucune animosité vis-à-vis des autres communautés. Je rencontre d'autres voyageurs qui m'expliquent aussi un petit peu leur péripétie. Mais c'est sûr que quand on traverse ces pays-là, peut-être, et qu'on est loin du front de mer, on voit quand même encore un peu les stigmates de la guerre et puis de cette réalité.
C'est frappant en Croatie, hyper touristique. Vous le voyez depuis les sommets, ce brouhaha constant du tourisme, on est en été. Ouais. Mais voilà, dès qu'on s'écarte un peu, on est dans une réalité du pays toute différente. J'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques minutes, mais vers les deux, trois points philosophiques, philo du voyage qui m'ont intéressé. D'abord, un point que j'ai assez vite relevé dans votre livre et qui m'a paru tout à fait rafraîchissant. On parle des jeunes générations comme étant des générations protégées justement par la technologie, par tout ce qui les entoure, etc. Et vous nous parlez assez rapidement dans le livre d'une génération privée, en fait, privée de déambulation, privée de liberté, la liberté de se tromper, la liberté de contempler, etc.
Les
petits cons, vous dites les pauvres cons.
Voilà, exactement. Et puis d'ailleurs, je dédie mon livre à mes neveux et puis à leur génération parce que, voilà, moi je suis issu d'une génération un peu entre deux qui a eu la chance quand même de déambuler un peu à sa guise jeune, d'aller dehors, etc. Puis de ne pas être trop rapidement pris aussi par ces algorithmes et puis par ces canaux informationnels dans lesquels on peut entrer. Et donc, je pense qu'en fait, finalement, on est presque plus libre dans un monde non algorithmé. Et dans un monde aussi qui nous pousse à aller chercher par nous-mêmes les informations, etc. Et aussi dans un monde qui nous pousse à voyager, à aller dehors, et puis qui ne nous insère pas dans une forme de peur. Et aussi, au-delà de ça, le problème des smartphones et tout ça, c'est juste ça rend les gens aussi beaucoup plus sédentaires, beaucoup plus casaniers. Et donc, c'est aussi une forme de pied de nez à tout ça.
Moi, je suis toujours friand de nouvelles théories qui me prouvent que non, les nouvelles générations ne sont pas plus sottes que les précédentes. C'est un vieux débat. Hein. Les suivants sont toujours un peu plus débiles. Mais c'est pas vrai. Et je trouve très intéressant cette notion de privation, finalement. Hein. On est dans un monde où avoir un smartphone, c'est pas un choix, c'est plus un choix. Ça a pu être un choix les 10 premières années, peut-être. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de leur tirer dessus, quoi. Ils sont dans le monde dans lequel on les fait vivre.
Ah, clairement.
Vous êtes enseignant, vous les côtoyez, les jeunes.
Moi, je les côtoie. Et puis, j'ai pas du tout envie de leur mettre la responsabilité. Eux, ils sont nés dans ce monde-là. Ils doivent s'y adapter. Mais c'est vrai que, parfois, par certains aspects, j'ai l'impression que c'est un peu dommage, que peut-être que ça les empêche de faire certaines choses. Et puis, il ne faut pas croire, ils sont quand même assez conscients aussi des enjeux. Et il y a beaucoup de jeunes qui essayent de s'auto-éduquer, de laisser leur téléphone dans un coin pour aller dehors, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même pris, et comme nous tous, dans un peu ce délire comme ça techno-solutionniste ou bien par...
Quand vous revenez de voyage, le pouce se remet en route très vite pour faire défiler les écrans.
Le pouce se remet très vite en marche. Ça a été modélisé pour nous rendre accro sur le modèle de la boîte de Skinner et tout ça. Et puis, c'est pas simple de sortir de ça. C'est pour ça que, pour moi, on a besoin de réglementation, on a besoin de quelque chose qui nous surplombe. Juste en tant qu'individu, c'est quand même très difficile. Alors après, moi je suis adulte, je lis des journaux papier, je lis des bouquins, j'essaye d'aller dehors, donc j'arrive quand même à sortir un tout petit peu de ça, mais c'est vrai que on est tous pris pendant 15-20 minutes à scroller bêtement, et puis c'est fou. Il y a une forme d'aliénation.
Vous donnez pas de leçons dans votre livre, ni aux jeunes, ni aux autres d'ailleurs. Il y a une deuxième réflexion intéressante pour moi qui surgit à vous lire, c'est la notion du temps. C'est bien joli. Alors vous êtes enseignant, j'entends déjà des voix. Oui, évidemment, il a le temps de partir 6 ou 7 semaines en été. Tant mieux pour vous, tout le monde ne le peut pas, évidemment. Mais vous croisez des gens, des copains d'aventure, on les a évoqués tout à l'heure, qui sont partis pour 1 an. Pour 3 ans, exactement, même pour l'un d'entre eux. Très rapidement, on se rend compte que on peut jouer le jeu de la liberté, mais le temps, c'est la fin de la liberté. En fait.
Ouais, clairement. Et puis le temps, je pense, c'est la première richesse qu'on a, et on a tendance des fois un peu à la gaspiller. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir le temps, mais c'est aussi un choix. je choisis de... Après, je sais que j'ai la chance d'avoir un métier qui me le permet. Mais c'est aussi un choix d'être un peu minimaliste, de ne pas avoir trop de charges, de manière à avoir ce temps pour ces voyages, quitte à ne pas gagner ma croûte pendant un moment. Puis après, la question sur le temps, c'est aussi vraiment sur le rapport au temps. C'est que quand on n'a pas de smartphone ou quand on voyage à pied ou quand on voyage en bateau plutôt qu'en avion pour traverser l'Atlantique, en fait, on aura aussi une représentation ou un rapport au temps qui est plus humain,
Qui suit le soleil.
Qui
aussi,
suit le soleil.
Si on n'a pas d'écran, exactement. A priori, quand il fait nuit et qu'on est dans la nature, on dort.
Exactement, qui suit le soleil et puis qui suit aussi finalement... Les conditions humaines qu'on a, dans le sens nos capacités propres.
Il y a une scène qui m'a étonné pour aller dans ce sens-là. On arrive gentiment à la fin de cette émission, mais vous marchez avec deux de vos potes. Là, il y en a un qui est parti pour 3 ans, l'autre pour 1 an. Et puis, après quelques jours de randonnée commune, vous dites OK, moi, si je veux faire ce que j'ai décidé de faire, il faut que j'avance plus vite. J'ai pas le temps. Et quelques lignes plus loin, ça se traduit par je suis au bord d'une ville, j'ai oublié son nom.
Knine.
Elle mériterait sans doute d'être visiter, mais je trace. Donc la vraie liberté, ça serait de pouvoir se dire, je passe 3 jours ici et je continue.
Exactement. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même une forme de liberté, parce que c'est un choix que j'ai pris, mais c'est vrai que, contrairement à eux, j'avais pas plusieurs années devant moi, et puis il y avait 50 km de route. Donc je me suis dit, je préfère être sur les sentiers, je préfère être en montagne, je vais faire du stop, ça me permettra aussi de rencontrer du monde, puis je continuerai à mon rythme tranquille.
En tout cas, votre livre, une parenthèse balkanique à pied sans mon smartphone, c'est aux éditions Slatkin, ça permet par petites touches d'avoir vos réflexions sur la nature, sur le sens du voyage aussi, dont on l'a bien compris qu'il était un luxe pour beaucoup de monde aujourd'hui, notamment à cause de cette question de temps. Merci à vous, Fabien Favre.
Merci.